France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Danny Boone. À 19h40, Affaires critiques, Lucille Como nous parlera du livre de Pierre Michon, Les deux Beunes. 19h45, Affaires en cours par Marie Sorbier. Selon l'UNESCO, une langue disparaît toutes les deux semaines dans le monde. Joël Bellassène, qui est professeur à l'INALCO, a conçu un MOOC pour apprendre l'écriture pictographique d'Omba pour la préserver. 19h50, Affaires à suivre, direction Amsterdam ce soir avec notre correspondante Angélique Bouin. Le tour est réalisé par Alexandre Fougeron avec Nicolas Bonnet à la prise de son. Bonsoir Danny Boone.
Bonsoir Arnaud.
Vous êtes à l'affiche de Mon Crime, le film de François Ozon, qui fait une très belle carrière dans les salles. Tout On peut fait. Vous voir sur Prime Video dans le réjouissant Murder Mystery.
Non, sur Netflix.
Ah, ça, j'ai dit une bêtise.
C'est pas grave.
Netflix. Voilà. Ça, c'est pas moins l'excellent et réjouissant Murder Mystery 2. Hein, il faut dire tout, puisque c'est...
Il y a tout, ouais, c'est en anglais.
C'est en anglais. Et puis mercredi, surtout, c'est pour ça que j'ai la chance de vous inviter, sortira en salle votre 8e film en tant que réalisateur, La vie pour de vrai, aux côtés de Charlotte Gainsbourg et de Kad Merad. C'est bien plus d'occasions qu'il n'en fallait pour vous recevoir ce jour et préciser que je suis un fan de la première heure. Depuis votre spectacle, Je vais bien, tout va bien.
Ah oui.
C'était il y a quand même 30 ans, donc.
Tout à fait, merci.
Très fan aussi, dès votre premier film, La Maison du Bonheur, sorti en 2006.
C'est vrai.
Ouais, vous voyez déjà tout le talent.
C'est vrai. Ben, merci beaucoup. Mais c'est vrai. Je suis touché, parce que moi j'écoute vos émissions, donc. Bon. Voilà, c'est réciproque.
Bon, ben, arrêtons. Ah, voilà, merci, on va boire un verre. Bon. Mais on va quand même revenir avant cela sur quelques moments importants de votre parcours, essayer de lever le voile sur vos méthodes de travail. Enfant de l'amour, mais des conditions de vie, disons, pas faciles dans votre adolescence, votre enfance, et cette envie très jeune de donner le sourire à votre mère, Danielle, pour soulager un peu le quotidien. Alors, vous savez, puisque donc vous écoutez régulièrement qu'on s'intéresse souvent à la vocation des artistes, est-ce que le fait de faire rire votre mère vous semble une bonne piste pour votre vocation ?
Ah oui, c'est même la vocation première, c'est le premier... Oui, c'est d'ailleurs, le film parle aussi des premières émotions amoureuses, donc et je pense que même tous mes sujets de sketch ou de film sont très liés à l'enfance, et c'est aussi pour ça que j'ai un public d'enfants d'ailleurs, enfin pas que d'adultes, mais un public plutôt familial. Et parce que j'y mets souvent des gags visuels et des choses qui m'ont marqué dans l'enfance. Au-delà du, enfin là, je vais parler de ce que j'ai pu voir quand j'étais gosse, mais je regardais beaucoup le Ciné-Club sur FR3. Et j'adorais cette voix de
Patrick Braillon.
Voilà, qui disait ce
le
soir.
Le cinéma de minuit. Parce que le Ciné-Club, c'était Claude Jean-Philippe sur Antenne 2 à l'époque.
Voilà, bah vous êtes plus pointu que moi. Ma mémoire me trahit. Mais j'adorais voir ces films anciens et découvrir même des cycles de cinéma muets parfois, où on découvrait des moyens-métrages ou des courts-métrages de films visuels et qui m'ont inspiré pas mal de gags, à mon avis, et quelque chose de particulier dans le physique, dans la manière d'aborder les scènes. C'est-à-dire que la scène aussi. Effectivement, donc ma première scène, ça a été les dîners ou les déjeuners en famille, ou enfin surtout les déjeuners quand j'étais plus petit, mais où j'imprimais, c'est mon souvenir le plus lointain. Mes parents parlaient, discutaient de choses plutôt dramatiques dans la famille et de conflits. Familiaux, je saisissais des bribes de phrases que je ne comprenais absolument pas, mais je les ressortais hors contexte avec l'intonation, et je savais que je faisais rire en imitant les adultes sans comprendre ce que je disais. C'est le début, et je voyais ma mère rire, et les adultes rire de mes pitreries, en fait. J'ai ce souvenir-là, et le dessin aussi, ça a été important, puisque je dessinais, et bon, ça va faire très, ça va être très, très Zola, mais sous les toutes-bocs de bière, j'ai dessiné, sous les toutes-bocs de bière, j'ai dessiné des
bon, il y en a eu d'autres, hein, Picasso, Giacometti ont fait ça aussi.
Ils ont démarré sous les toutes-bocs de bière aussi.
Oui, comme vous.
C'est vrai.
Ouais, je crois qu'ils vous imitaient, déjà.
C'est ça.
Le plagiat par anticipation, ça c'est toujours une belle idée.
Mais ils ont raté dans le cinéma, donc c'est...
Ouais. Alors, puisqu'on parle d'enfance quand même, il faut évoquer aussi votre intérêt ancien pour la psychanalyse, Danny Boone. D'abord, paraît-il, par un camarade des Cours Simon qui vous fait
un
découvrir...
Un psy, ouais, un lacanien.
Jacques Lacan, ouais. Et ouais. Puis ensuite, il y aura...
J'ai lu, il m'a donné une saison chez Lacan de Pierre Rey, qui était un publicitaire, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et voilà, qui disait être rentré rue de Lille, il n'y a pas de hasard, chez Jacques Lacan, en disant « mais tout va bien ». Je suis très heureux.
Je vais bien, tout va bien.
Je vais bien, tout va bien, exactement. C'est le point de départ. Voilà.
Et puis après, il y aura les lectures d'autres, François Dolto, Cyrulnik, Boris. Avant de parler de votre rapport à la psychanalyse, peut-être vous développer, on va écouter un court extrait de Boris Cyrulnik, qui ont demandé, encore une fois, sa définition de la résilience. Il était au micro d'Adèle Van Rett, c'était sur France Culture en 2020.
La définition de la résilience, elle est bébête, tellement elle est évidente. Hein. C'est-à-dire qu'on est traumatisé. Un grand malheur nous arrive, on comprend pas. On est hébété. Et le mot hébété, c'est le mot qui est confirmé aujourd'hui par la neuroimagerie. Quand on a un trop grand malheur, le cerveau ne peut pas traiter les informations, il est gris, il fonctionne plus. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien on reste prisonnier du malheur, ça arrive, c'est le syndrome psychotraumatique, ou bien on se débat pour se remettre à vivre tant bien que mal. C'est la définition de la résilience. Il n'y a pas plus bébête que cette définition. Alors ça, c'est, ce qui est difficile, en revanche, c'est de découvrir les facteurs qui permettent la reprise d'un nouveau développement. C'est la résilience.
Cette notion de résilience, Danny Boone, elle est importante pour vous?
Très. J'adore la voix de Cyrulnik. Elle est très apaisante.
Déjà, ça fait du bien.
Et il avait... Non, mais j'adore ce qu'il... J'aime beaucoup ce qu'il écrit. Il va aussi, d'ailleurs, dans les banlieues rencontrer les jeunes et il essaie de leur donner des héros positifs, en fait. Parce que très souvent, ils ont des héros négatifs. Et lui disait que il aurait pu partir dans le sombrer pendant la Deuxième Guerre parce qu'il s'est retrouvé seul. Et c'est en lisant Rémi sans famille que il s'est sorti de sa... justement de son trauma...
d'abandon.
De survivant, exactement. Et oui, la résilience, enfin le fait de j'ai eu cette chose de, en fait je pense que j'ai été très curieux de comprendre pourquoi, d'essayer de comprendre pourquoi j'étais pas aimé, pourquoi une partie de ma famille rejetait mes parents. Et ce qui est formidable, c'est que mon père n'a jamais eu d'animosité ou n'a jamais été. En fait, mon père ne souffrait pas d'ailleurs spécialement du racisme. Il était donc d'origine kabyle, français, puisque quand il est venu en France, l'Algérie était française. Il n'en souffrait pas parce qu'il était très costaud et comme il avait été boxeur, on embête moins le.
Ouais.
Voilà, c'est quoi le truc d'Audiard, là, qu'on disait quand les grands costauds parlent, les petits se taisent et écoutent, c'est ça? Il y a un truc comme ça, c'est pas la bonne phrase, mais... résilience, en tout cas, une sorte de questionnement, quoi, sur soi, et une curiosité sur le monde, sur un monde et sur une culture qui me passionne, enfin, qui m'intéresse, mais que je découvre très tard. Beaucoup à travers la télévision, qu'on a tard à la maison. J'ai encore le souvenir de la télévision couleur qui arrive chez mes parents, alors que tout le monde avait la télévision couleur déjà depuis longtemps. Et puis la découverte, comme on en parlait, le cinéma, où le d'ailleurs il y avait aussi au théâtre ce soir, il y avait... je découvrais l'humour, ou à l'école même, dans les bouquins de français, la guerre des Michards, où il y avait des textes de Raymond Devos, il y avait deux sketchs. C'est une période où à l'école, on faisait tout pour nous dégoûter de Balzac.
Et de Zola.
Et de Zola aussi, oui.
On y revient.
Voilà. Quoique nous, il fallait lire Germinal, parce que c'est même, c'est, voilà, c'était le livre, le local de l'étape. Donc je découvre les textes, je découvre qu'on peut rire avec l'absurde. Et je pense qu'il y a un écho à ce que je vis aussi, dans le sens où je découvre les choses très tard. Je suis curieux, quoi. Mmh. Simplement curieux du monde et curieux des autres. Et je me rends compte que j'ai ce pouvoir merveilleux de rendre l'autre inoffensif en le faisant rire. C'est-à-dire qu'il y avait un côté, il y avait une sorte d'altérité qui était complexe par rapport à ce que vivaient mes parents. Et quand on fait rire, on répare plein de choses. Quand on fait rire avec des choses, avec des sujets qui sont graves, quoi. Ce que j'ai fait depuis enfant, c'est vrai que j'étais connu grâce à ça. Je faisais un sketch sur la déprime où je chantais « Je vais bien, tout va bien ». Et je faisais un sketch sur ça parlait de suicide, j'avais un sketch sur la peine de mort, sur la folie. Je passais la tête au rideau. Mon premier sketch, d'ailleurs, c'est mon tout premier sketch de mon premier spectacle à Paris. Ça vient aussi de l'hôpital psychiatrique d'Armentières, je pense, où je rencontrais souvent des groupes d'internés.
Voilà, j'allais dire ça comme ça.
D'internés qui se promenaient pour regarder les fous qui étaient en liberté, c'est ça. dont je faisais partie. Et donc je passais la tête au rideau avec mes oreilles décollées et je disais bonsoir, je sors de l'hôpital psychiatrique. Non mais je suis complètement guéri. Bonsoir, je sors de l'hôpital psychiatrique. Non mais je suis complètement guéri. Hein. Bonsoir. Je disais ça 10 fois, 15 fois. Puis à la fin, je disais non, je m'entraîne parce qu'en fait, je sors peut-être demain. Et c'était la chute du sketch. Et donc, il y avait tous les soirs des gens qui quittaient la salle en disant c'est pas l'humoriste qu'on voulait voir. Il y a un souci. On s'est trompé de salle.
Ouais, c'est pas le bon.
C'était au Lucernaire. C'est les débuts. Et à l'époque, c'est vrai que les gens qui me voyaient en audition me disaient ça marche pas. Et puis, ça marchera jamais. Et puis, en fait, une fois que j'ai eu du public en nombre, ça j'ai fait rire.
Il y a eu du chemin entre temps d'accomplir. On va pas refaire tout le parcours.
Mais c'est la base, quoi. La scène, en tout cas, est l'origine.
Mais pour y arriver, il y a quand même l'étude des arts graphiques, l'Institut Saint-Luc de Tournai en Belgique. Et j'ai lu que votre prof de guitare, qui était peintre, Philippe Holvoet, il vous encourage, lui, à écrire des sketchs. Avec lui, vous trouvez aussi ce nom de scène piqué à la série américaine dont nous nous souvenons tous, Daniel Boone. Il y a plusieurs choses, mais il y a aussi le travail de storyboarder. On l'évoquera peut-être en reparlant de cinéma dans un instant. Et puis, il y a le cours Simon, exceptionnellement gratuit pour vous.
Oui,
merci, vous devez payer plus tard. Et puis, non.
Non, elle a pas. Oui, elle m'a dit tout
de suite.
Oui, c'est très beau. Ouais, je la remercie. Ouais, j'étais apprécié, quoi. Et j'ai dit, je pars, je dois partir, je paierai, je rembourserai dès que je pourrai. Puis, ils m'ont. Elle m'a dit non, tu ne dis rien, mais tu ne paieras pas.
Et puis une ancienne camarade qui vous croise un jour dans la rue, qui vous demande ce que vous faites, et vous faites à ce moment-là de l'animation, à France Animation, et elle vous dit mais non, toi, s'il y en a un qui doit être acteur,
c'est toi. Ouais.
C'est toi. Puis après, il y a le festival d'expression artistique libre et désordonnée au Café de la Gare, Théâtre Trévise ensuite, donc ce premier sketch, ce premier public, puis Richard Calfa aux Movies qui vous invite, et puis il y a le frère et la sœur Sylvie Joly qui sont là, qui vous la présentent, et puis il y a le Lucernaire que vous évoquiez. Et
je travaille avec Thierry Joly longtemps.
Et vous travaillez avec Thierry Joly.
Deux ans, disons.
Et puis après, il y a Patrick Sébastien, il y a Jimmy Lévy, il y en a quelques autres. Mais pour évoquer ce que vous disiez à l'instant, Danny Boone, faire un spectacle avec des sujets terribles, écoutez justement cette archive de Raymond Devos au micro de Moussa Abadi, c'était sur France Culture en 1967.
Un comique est un monsieur qui, pour amuser ses semblables, prend en charge ce qu'il considère comme leurs soucis. Alors, il se penche sur la question, il regarde ce qui préoccupe, ennuie, détériore la vie des gens, et il s'invente autour de ça une petite histoire où il se place comme le personnage victime, personnage central, c'est-à-dire la victime. Dans la mesure où il devient la victime de tout ça, les gens qui voient leurs propres soucis pris en charge par ce monsieur, dans la mesure où c'est traité sur un plan comique, c'est-à-dire où on montre l'angle comique de la chose, on l'atténue et c'est fini. Les gens sont donc débarrassés de ces soucis-là.
Vous dites volontiers que le comique, l'amuseur, joue le rôle d'un paratonnerre.
C'est ça, oui. Bon, moi, c'est ça. Il attire sur lui les ennuis et dans la mesure où il les prend à sa charge, la foudre ne tombe pas sur le voisin.
Oui, mais en sortant du théâtre...
Ah, c'est terminé. Ça, vous savez, c'est pour ça que tout ça est léger. C'est pour ça que tout ça n'a pas grande importance. S'il suffisait de le faire une fois pour que les gens soient véritablement débarrassés, alors ce serait une thérapeutique prodigieuse. On n'irait plus chez le médecin, on irait chez le comique, n'est-ce pas? Mais c'est pas ça. Je crois qu'on les détend, on les distrait pendant 2 heures. Mais je trouve, de vous à moi, que c'est extrêmement difficile d'amuser les gens. C'est extrêmement difficile de provoquer, de faire du comique. Et c'est paradoxal parce qu'on pourrait penser que c'est le contraire. On pourrait penser que amuser, mon Dieu, surtout que tout ça ne porte pas conséquence au fond, distraire, amuser, c'est... Mais provoquer le rire, c'est délicat. Ça demande un respect d'autrui. Ça demande un amour d'autrui. Ça demande une espèce de lucidité terrible de soi-même. On ne peut pas se duper, on n'a pas le droit de mentir, de se mentir. C'est tout ça. Ça demande une espèce d'honnêteté, en un mot, qui est difficile.
Raymond Devos, 167, commentaire d'Annie Boone.
Merci pour cette archive que je ne connaissais pas.
C'est impeccable.
C'est magnifique. J'avais un an, je ne pouvais pas comprendre ce qu'il disait à l'époque, mais oui, j'ai eu la chance de connaître et d'être très, très proche de Raymond. J'allais souvent chez lui, où j'écoutais surtout, et je parlais très peu, je posais des questions. Et
l'approche, hein, c'est celle que vous décrivez pour vous-même
aussi. C'est très juste. Oui. Il avait d'ailleurs. C'est parce que je le voyais travailler. Il avait une sorte de chevalet comme ça, comme un peintre en fait. Et il écrivait en hauteur comme ça. Et il écrivait ses idées. Et quand j'allais chez lui, il disait souvent. Enfin, il avait beaucoup d'humilité. Il disait. Il y avait le sentiment que des fois ça servait à rien que. Il comprenait pas, il voyait pas pourquoi les gens avaient de l'intérêt pour ce qu'il écrivait ou pour ses sketchs. Alors que c'est ce qui est magnifique, c'est que il est allé chercher la lumière dans la langue française. Il a fait des associations lumineuses d'ailleurs qui sont proches aussi de la psychanalyse. Quand on sait que on construit nos phrases de manière inconsciente et que on peut lire à travers ce qu'on dit. Ce qu'on construit, la manière de syntaxer nos phrases, on peut lire ce que pense notre inconscient. C'est ce qu'il faisait, mais en donnant du sens aux deux, en fait, à la fois dans l'absurde de l'inconscient et dans l'absurde aussi du présent. Et voilà, j'ai un souvenir merveilleux quand il est parti et la famille m'a demandé de parler à son enterrement à l'église et donc j'ai dit quelques mots et surtout j'ai dit je vais vous lire un texte de Raymond et j'ai lu un texte dans l'église où tout le monde était très triste et c'est ce sketch magnifique où Raymond dit je me suis fait tout seul et je me suis raté et il dit et si je devais recommencer je me raterais pareil et il explique qu'il s'est raté et que il s'est pas bien fini et qu'il dit en même temps un homme fini il est fini donc Et ça riait dans l'église. Et je trouvais que c'était un bel hommage à lui rendre, en fait. Donc, parce que souvent, quand les grands artistes, enfin, quand les artistes partent comme ça, on les applaudit à la sortie en allant vers le cimetière. Et là, ça riait. Ça riait, ça applaudissait. Et c'était Raymond, quoi. Il y a un côté réparation, justement. Et moi, quand j'étais au Palais des Glaces et que je travaillais avec Thierry Joly, qui faisait ma mise en scène et avec qui j'écrivais aussi, qui était un homme très très drôle et absolument merveilleux, il était en sursis quand je l'ai rencontré parce qu'il était très malade et on a eu 2 ans où on était très très amis et puis il est parti quand j'ai commencé à avoir du succès et Donc je faisais le déprimé que lui, il mettait en scène ce spectacle, il en avait écrit quelques sketchs, et à la fin du spectacle, je le faisais toujours applaudir en disant la mise en scène est de Thierry Joly, et puis en fait quand il est parti, j'étais dévasté, je continuais à le faire applaudir, et je pleurais, j'éclatais en sanglots, c'était absolument terrible, et j'étais dévasté de tristesse, et les gens riaient. Et riez en pensant que je reprenais mon personnage du déprimé, quand justement Raymond parle de sincérité et de justesse. Et pour moi, c'était un grand soulagement de faire rire avec ma détresse, en fait, et ma tristesse. Et j'étais très heureux. C'était aussi une forme de réparation. J'étais à la fois à la place de moi enfant et à la place de ma mère quand j'avais les deux.
Voilà. Ça fait beaucoup de monde sur une scène. Ouais. Alors, sur l'écriture, justement, chacun sa méthode. Il y en a qui écrivent debout, donc comme Raymond Devos, et il y en a qui peuvent s'asseoir. Par exemple, on va écouter Jacques Tati,
ouais.
Toujours sur France Culture, on est en 77.
Si vous voulez, bon, je donne un exemple. On annonce à l'aéroport de Roissy qu'il va y avoir 20 minutes d'attente pour un avion.
Oui.
Bon. Alors tous les gens s'affolent parce qu'il y a des hommes d'affaires qui ont rendez-vous très important dans des conseils d'administration à Londres. Et moi je m'installe dans un fauteuil et je me dis, voilà, maintenant l'action commence, le clap est donné et je vais peut-être voir le meilleur film de la semaine. Pourquoi ? Parce qu'on va amener un café supplémentaire pour faire patienter les gens. Les hôtesses vont venir parler directement sans employer les micros. Et tout ça va se terminer avec un petit peu d'humanité, or qu'il n'y en avait pas jusque-là. Bon, donc, c'est basé, c'est là où on a le temps. Et on prend le temps. On a toujours le temps d'observer. Et on a aussi le temps de passer à côté de toutes les choses qui vous entourent.
Jacques Tati, 77, voilà une façon de regarder le monde. Et on sent bien que vous regardez le monde aussi, Danny Boone.
Mais Jacques Tati, c'est, d'abord, je trouve que c'était un artiste fantastique qui a eu... Il a pas eu un succès populaire énorme, et on sait qu'il a à chaque fois, d'ailleurs, il critiquait le monde moderne. Donc, il se faisait souvent détruire par la critique et le public n'adhérait pas parce qu'ils étaient contents justement de cette. Lui avait un regard justement sur le monde moderne qui était très très drôle et très très burlesque. Il vient du cirque et puis il. Il a travaillé aussi avec Pierre Etex, que j'ai eu la chance de rencontrer. Pierre Etex qui était dessinateur aussi. Moi, ce que j'ai découvert Jacques Tati justement au ciné-club et à la télévision quand j'étais enfant, et je me dis, il n'y avait pas de dialogue. C'était extraordinaire. Ce que je vois d'un film, une comédie avec un personnage qui baragouine des trucs comme dans la vie où on comprend pas ce qui se passe et on est effectivement observateur d'une scène où le monde qui nous entoure, la société devient un cirque. C'est un peu ce qui se passe d'ailleurs quand je suis dans le métro, quand mon personnage de Trident est dans le métro et qu'il a un regard comme ça très très enfantin, très clownesque en fait, très très auguste, perdu dans un monde 2.0 quoi. Et post-Covid, qui est un peu dur, un peu cynique, un peu où les gens sont très distants les uns des autres et ne se regardent plus d'ailleurs. Ils regardent leur image sur leurs écrans et ils communiquent à travers, enfin à distance, mais ils sont plus à l'endroit où ils sont au moment où ils sont. Et Tati, c'est comme des tableaux où on découvre des grandes fresques, où on découvre des détails à chaque fois. Et moi, les premiers rires provoqués par Tati, je crois que c'est dans Playtime où il est. Un salon de la cuisine ou je sais pas quoi, un salon de la maison moderne. Bon, il y a ce truc où il met la fontaine, où le personnage met la fontaine quand les gens ils mangent en vitrine aussi dans leur maison moderne. Et il est dans ce salon des objets et de la cuisine, et il se balade dans une cuisine comme ça, dans cet immense salon où il y a plein d'exposants. Puis il fait tomber une sorte de truc pour robot, rond, un truc rond en plexi et qui tombe et qui rebondit. Et donc il a peur que ça se casse, et en fait il le fait rebondir deux trois fois comme un ballon, puis il le repose en disant tiens, c'est très rigolo cet endroit. Puis il passe dans une autre cuisine, il prend un objet qui ressemble beaucoup, il le jette par terre pour le faire rebondir, et l'objet casse en mille morceaux avec l'exposant qui le regarde en disant mais pourquoi? Et lui, il peut pas expliquer, parce que j'étais sûr que ça allait rebondir. Et donc c'est à mourir de rire.
Alors ce qui nous permet de parler quand même de cinéma, Danny Boone, j'évoquais votre premier film en tant que réalisateur, La Maison du Bonheur. Il faut rappeler que donc Bienvenue chez les Ch'tis n'était que votre deuxième long métrage.
Oui, heureusement d'ailleurs. Heureusement que c'était le deuxième mais pas le premier.
Ça aurait été pire?
Je pense que j'aurais vécu différemment, oui. Je pense que ça aurait été trop violent que ce soit le premier. Et en fait, bon. Bienvenue chez les Ch'tis devait être le premier. Et c'est moi qui ai décidé de changer, en fait, pour faire... En fait, Claude Berry, je signe avec Claude Berry et Jérôme Sédoux, et je leur demande de signer deux films. Parce que je sais que si je rate le premier, j'en ferai pas deux. Et je vais être sûr d'avoir une deuxième chance au cas où le premier ne marche pas.
Et le premier, c'est pour vous rassurer,
Non, en fait, non, pas me rassurer, c'est-à-dire que j'étais très lié au monde de l'image, puisque je suis dessinateur, j'ai été storyboarder, j'ai travaillé dans le dessin animé longtemps, j'ai fait de la photo à Saint-Luc, en Belgique, une école d'art où d'ailleurs il y a plein d'artistes qui sont allés comme Benoît Poulvorde, comme Albin de la Simone, on était à Saint-Luc, on était dans la même école, quelques années près, on s'est pas rencontrés, mais... Et donc, je ne sais, tant qu'on n'est pas sur un plateau à diriger une équipe, on ne sait pas si on est capable de faire rire à travers l'image. Et si on a, j'ai une connaissance dans le one man show, évidemment dans la scène, le contact direct avec le public. Mais est-ce que j'arrive à retranscrire ça en image et à découper un film, même si j'ai un sens du découpage puisque je suis storyboarder, j'ai été storyboarder, ça a été mon métier pendant 2 ans. Mais donc je ne sais pas. Et je me dis, je vais pas démarrer avec ce film. Bienvenue chez les Ch'tis. En plus, on me dit qu'est-ce que c'est Ch'tis. On me dit pourquoi, on comprend pas, mais les gens vont pas comprendre, c'est pas possible. Non, Danny, ne fais pas ça. Bon, j'insiste pas, je veux pas me rater non plus. Je veux pas décevoir et ma mère et tout la région Nord qui m'adore en one man show. Je me dis, je vais commencer par un film qui est l'adaptation de ma pièce de théâtre pour voir si je suis capable de faire ça au cinéma, quoi. Voilà.
Mission accomplie. Puis ce deuxième film. 20 489 303 entrées en France.
C'est précis.
C'est précis, mais c'est une émission où les faits sont évidemment vérifiés de multiples fois par une...
Attention, on est proche de l'interrogatoire.
Hein. Oui. c'est vrai que ça aurait pu être difficile à digérer, malgré tout, un succès pareil. Mais c'est aussi beaucoup d'amour que vous recevez, donc ça fait quand même
plutôt du bien. Oui, parce que j'ai fait le film pour les bonnes raisons, en fait. Donc j'ai pas du tout fait le film pour faire plus de 20 millions d'entrées,
oui, parce que
même 7 à l'étranger.
Il y en a qui essayent, hein, mais ils n'y arrivent pas.
Ouais, il y en a qui ont essayé. Et c'est merveilleux. C'est la récompense. Et c'est aussi pareil, une histoire de réconciliation avec ma famille élargie, disons, puisqu'une partie de ma famille maternelle, Ch'ti, a rejeté mon père et ma mère et donc leurs enfants. Par extension, j'ai été d'un seul coup aimé. Je suis aimé par toute une région à qui j'ai rendu hommage. Et je raconte aussi l'histoire de mon père à travers ça, parce que c'est l'histoire d'un mec du sud d'un personnage du sud qui monte dans le nord. Mon père est parti de Kabylie pour remonter dans le nord et rencontrer ma mère. Et voilà, c'est une histoire d'amour aussi entre un homme du sud qui jouait par Cadmerade. Qui en plus qui est un hasard, mais peut-être est-ce qu'il y a des hasards, que des hasards, mais c'est aussi il est issu d'un métissage Algérie et Berrichon. Je fais ce film et c'est merveilleux. Et même le témoignage aussi à l'étranger de gens qui ensuite vont visiter le Nord, aller voir encore aujourd'hui Berg, et beaucoup visiter. Et puis les produits du Nord qui d'un seul coup deviennent à l'honneur. Moi, j'étais très, très heureux de ça.
Ouais, vous savez de quoi. Alors, La Vie pour de vrai, ce nouveau film qui sort mercredi. Au tout début du film, On nous montre la rencontre coup de foudre des parents de votre personnage, qui sont donc animateurs au Club Med, la naissance du petit Trident.
Maxime Gasteuil et Caroline Anglade, qui jouent mes parents, nos parents.
Trident Lagache, qui grandit donc au Club Med, et qui, tous les 8 jours, est en larmes parce que ses amis de la semaine vacanciers partent dans le bus, et ce qui lui vaudra un grand trauma envers les bus. Difficile la résilience envers un bus. Et un cœur davantage brisé le jour où Violette elle-même s'en va. Ils ont 8 ans, ils disent qu'ils vont s'aimer pour la vie, mais elle part comme les autres. Et 42 ans plus tard, Trident va donc quitter pour la première fois de sa vie ce village du Club Med et ce village natal, et partir pour Paris à la recherche de Violette. Pour quelqu'un qui n'a jamais mis de chaussures, par exemple, c'est pas tout à fait évident. Pour autant, alors je vais pas divulgâcher davantage, n'est-ce pas, mais il y a un très bon point de départ, on le comprend bien, mais après il reste quand même 1h50 de film à faire. Alors comment ça s'écrit? Est-ce que vous avez d'abord écrit comme l'arc narratif de votre personnage? Comment est-ce que les principaux événements du récit? Quelles sont les étapes pour vous de travail, Danny Boone?
J'écris.
Là, vous l'avez écrit seul, celui-là.
Ouais, je l'ai écrit seul. Ouais, mais souvent, je fais une première version seul, même si ensuite je travaille avec d'autres. Je fais toujours une première version. Seul ou 80% du scénario. Ensuite, j'aime bien travailler avec d'autres. Bon, là, ça n'a pas été le cas. Mais j'aime aussi parfois travailler avec d'autres et rien déclarer aussi. Je l'ai écrit totalement seul. Mais c'est j'ai l'idée et puis je rencontre. Bah, c'est pareil. C'est comme dit Jacques Tati. J'observe et je rencontre quelqu'un au Club Med en étant en vacances avec mes enfants. Parce que j'aime bien discuter avec les gens, j'adore parler, échanger, et qui me dit je suis né au club, mes parents se sont rencontrés ici, à 18 ans j'étais géo, j'ai plus de 40 ans et je suis chef des restaurants. Je lui dis c'est formidable, je dis vous ne connaissez pas la vie dehors, c'est génial. Je dis c'est une idée de film, c'est le point de départ. Ensuite, je laisse cette idée reposer pendant quelques années et je développe un peu quand même des idées et je l'oublie plus ou moins.
Bon. Les idées vont dans un carnet, sur un fichier d'ordinateur.
Dans un carnet, sur un fichier d'ordinateur, mais sur un truc où je dessine aussi. Mais maintenant, je dessine aussi sur mon smartphone, comme on dit, qui n'a rien de smart d'ailleurs, mais. Voilà. Mais j'écris et je dessine là-dessus. J'ai aussi un carnet avec où je note des idées parce que j'aime bien le contact du crayon et du avec la feuille, enfin la page. Ensuite, je mets les idées d'un Candide perdu dans Paris et qui découvre décalé, avec un regard décalé, le monde. C'est des idées qui viennent, et je mets quelques phrases comme ça. Quand il demande un billet d'avion pour Paris, on lui dit Charles de Gaulle, on lui dit non, Paris. Et quelle classe, il dit merci beaucoup, madame. Quoi. Ouais. Pour lui, un an avant de commencer la production du film, je me mets à écrire sérieusement. C'est-à-dire, je me lève très tôt, je fais plusieurs sessions d'écriture dans la journée et je deviens obsessionnel avec mes personnages, l'histoire, et je développe tous les personnages, ses parents. Mmh. J'essaie de savoir pourquoi il n'a pas quitté le club, pourquoi il n'est pas d'abord. Donc, je me dis, le club est très loin, il est au Mexique. Il n'a pas quitté ce Club Med là parce que il y a eu un drame quand il était enfant, quand il a voulu partir avec Violette. Un drame. Son père est mort à cause de. Enfin, ils se sentent responsables de la mort de son père puisqu'il a voulu se sauver avec du mini club avec Violette.
Vous en dites trop, Danny Boone.
J'en dis trop, d'accord. On peut couper ça ou pas? Bon, bref, mais c'est au début du film. Enfin, c'est dans les 15 premières minutes. Les 20 premières. C'est dans la première heure.
Première heure et demie.
non, quand même pas. C'est au début dans l'avion. Mais, donc je raconte l'histoire et puis, je me raconte cette histoire et puis, je me dis, qu'est-ce qui me motive? Ok, une fois que je vais, j'ai plein d'idées de gags visuels, entre autres, quand il est à Paris et qu'il est complètement décalé, genre il adore l'embouteillage en disant c'est merveilleux, magnifique, toutes ces voitures collées. où le taxi le prend pour un fétichiste. Et voilà, j'ai plein d'idées comme ça, mais je me dis, mais il faut quand même une belle motivation pour qu'à 50 ans, il se dise, je plaque tout, je n'ai rien construit. Et en fait, je me dis, voilà, il a connu des gens que 8 jours, il les a vus partir en bus, donc j'ai cette idée de trauma du bus qui part, où dès qu'il voit même un bus de la RATP partir, il se met à pleurer en disant aux gens, au revoir, à l'année prochaine. Parce qu'il est dévasté de voir les bus partir et c'est son trauma d'enfant où il n'y a pas eu résilience d'ailleurs.
Du tout.
Voilà. Le cerveau est tétanisé et puis je me dis mais l'amour en fait comme ce qu'on garde toute la vie c'est ses premières émotions, l'amour d'enfance à 8 ans, on connaît tous, on a tous le prénom de notre premier amour. Hasard de la vie, ma mère vient sur le tournage de La Petite Famille avec en tournée parlant de chez elle, elle me dit j'ai une surprise pour toi et il y a Valérie, mon amour de CM2, qui vient avec ma mère est morte de rire, moi je suis un peu gêné, elle aussi et puis je me dis c'est marrant parce qu'il y a, bon, évidemment on s'est aimé une journée à une exposition sur l'Égypte ancienne où il y avait des diapos, du coup c'était très sombre à Bailleul. Et on s'est pris la main dans les couloirs et on s'est embrassé dans le cou et pour moi c'était le summum de l'amour absolu. Ouais. Et on s'était pas, mais on n'avait pas fait de dessin ensemble. Mais en tout cas, je me dis voilà, c'est le point de départ de mon histoire et de la motivation de Trident pour dire je vais la retrouver. Ouais. Voilà. Et puis en fait je construis le personnage de Kad Merad en parallèle. Dans le sens où il a un demi-frère qui, lui, a grandi, comme Danny Wilde et Brett Sinclair, qui a grandi en parallèle, dans une ville, dans une grande ville, avec tous les emmerdes qu'il peut avoir, tous les ennuis dont parle d'ailleurs Raymond DeVos, là, dans ce qu'on a entendu, et qui est cynique, qui est un peu sclérosé par tous ces emmerdes, et qui ne sait plus sourire, et qui ne voit plus les dents des autres, ni les siennes d'ailleurs, puisqu'il est complètement fermé à l'autre, et l'autre est devenu un ennemi, pas un ennemi, mais en tout cas c'est un peu fort, mais un adversaire, quoi, disons.
J'ai l'impression qu'on a à peine commencé à parler.
Pardon. Mes réponses sont très longues.
Mais non, mais c'est dire que il va falloir qu'on se retrouve parce que là on est déjà au terme.
C'est vrai.
Cet entretien.
C'est incroyable.
Vous savez comme ça passe vite 40 minutes dans cette émission. On se le dit souvent. Alors là, vous avez battu des records, Danny Boone. Bon, on va reprendre date.
Deux questions.
On va faire la sortie du DVD à la rentrée.
Oui, hein, d'accord.
On fera ça.
Très bien.
Ça peut être pas mal parce qu'il faut rappeler simplement que ce nouveau film que je vous invite vivement à aller voir. Il y a Charlotte Gainsbourg aussi, on t'en a pas parlé.
Oui, Charlotte qui est magnifique dans
qui
le film.
Magnifique. Ouais. C'est la vie pour de vrai. Ouais. Il sort mercredi. Allez-y tôt. Dès la première séance, si vous le pouvez. Dès la première journée, au moins. Merci beaucoup, Danny Boone, d'avoir été notre invité.
Merci de m'avoir accueilli.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Bonsoir Lucille Comeau.
Et bonsoir Arnaud.
Ce soir, vous allez nous parler du dernier livre de Pierre Michon, Les Deux Beunes, paru chez Verdier.
Oui, un livre composé de deux textes écrits à plus de 25 ans d'intervalle et dont la première partie a déjà été publiée en 1996. Alors la Beune, c'est une rivière qui coule au cœur d'un village du Périgord, au pays des grottes préhistoriques. Un pays comme engoncé dans l'écriture de Michon, hautement métaphorique, qui sculpte un paysage entièrement saturé de signes comme un long poème. Alors dans ce village, le narrateur est instituteur. Fraîchement arrivé, il fait la connaissance du petit peuple périgourdin. Hélène, qui tient l'auberge où les hommes se retrouvent, mangent des charcutailles et boivent du calvados. Jean-Jean, exploitant du coin, dont la grange abrite l'entrée d'une caverne peut-être préhistorique. Jean le pêcheur, qui, comme son nom l'indique, traque inlassablement les carpes dans la Beune. Et surtout, Yvonne, la buraliste, grande femme calipige, dont la stature et la chair considérables deviennent source d'obsession pour le narrateur qui l'attend chaque jour sur les chemins. et dont l'existence est consacrée au fantasme de la posséder. Alors le livre se lit comme un récit continu, hein, la couture est peu visible entre ces deux parties, la grande beune puis la petite beune, signe de la grande cohérence stylistique de Michon et surtout de la poursuite d'une double obsession, celle sexuelle du personnage principal, spectaculaire, et puis celle littéraire de l'écrivain pour son histoire, ce qui revient, on le sent tout à fait au même. C'est un récit compliqué, ça tient au style de Michon, qui travaille dans une matière lexicale à la fois très riche et ponctuée par la répétition obsessionnelle de certains mots qui se disposent comme en réseau, la fente, le sachem, le renard, la carpe, etc. Ça tient aussi à son caractère ramassé, c'est un petit livre, ce qui semble contenir le monde entier. Et puis cette complexité, elle tient aussi à la mise en place de directions référentielles sans cesse contradictoires. Les gens y sont à la fois toujours grotesques et sublimes. Les lieux familiers comme un PMU à flipper et jukebox et inquiétants comme des cavernes obscures. Les temps à la fois situés dans la modernité rurale des tracteurs John Deere et des Karcher et dans celle éternelle du désir de tout homo erectus.
Car le désir, Lucille, c'est le cœur battant de ce livre.
Oui, il y a un mot qui revient sans cesse dans le livre, c'est le ventre. Anecdote obsédante pour dire le sexe sans cesse dressé du narrateur, hein, raide comme la plume. Pousser au ventre, c'est le mouvement permanent du livre et l'érection masculine fonctionne dans le fond comme le procédé littéraire lui-même, écrire. C'est bandé. Michon ancre l'écriture dans quelque chose de très archaïquement mâle, balayant au passage une certaine littérature. Il y a un personnage vraiment très disqualifié dans le récit qui est la petite amie du narrateur. Elle s'appelle Mado, elle est étudiante en lettres, elle vient parfois le visiter et se pique de lire du Baudelaire à la patronne du PMU. De la même manière que Mado, jeune fille sèche, lit mal, elle baise mal. Évidemment, il y a dans ce mouvement formel et dans les représentations qu'il charrie quelque chose peut-être de dérangeant pour le lecteur, la lectrice moderne. Le geste stylistique de Michon a quelque chose d'intrinsèquement réactionnaire et les binarités censément immémoriales dont il se revendique, celles du pêcheur de carpes et du baiseur de femmes, sont une évidente construction culturelle. Le hiatus dit ça, hein, qui sépare les deux textes. 25 ans de lecture et d'écriture qui n'ont rien changé aux obsessions et aux représentations de l'auteur, voire même, semble-t-il, qui ont intensifié certains motifs. La femme en bête passive et tremblante, l'homme en renard prédateur. Difficile cependant de se raidir outre mesure, tant c'est beau, tant c'est riche, tant la singularité de Michon demeure dans les mots.
Vous jouez avec les siens aussi. Ah, Lucille, les deux bonnes de Pierre Michon a donc paru chez Verdier. Affaire en cours à présent avec vous, Marie Sorbier, bonsoir.
Bonsoir Arnaud.
Alors en moyenne, une langue disparaît dans le monde toutes les deux semaines.
Oui, et c'est le cas de l'écriture Domba, utilisée par la minorité ethnique qui occupe la partie nord de la province du Yunnan, au sud de la Chine. Cette écriture, comme beaucoup d'autres, est menacée de disparition. Elle est pourtant la dernière écriture dite pictographique encore en usage dans le monde. Pour apprendre cette langue et ainsi tenter de la préserver, un MOOC préparé par l'INALCO, l'Université de Genève et l'Université BLCU en Chine sera bientôt en ligne et permettra à tous de se plonger dans la culture Domba. Je suis allée retrouver Joël Bellassène pour qu'il nous en dise plus. Joël Bellassène, bonsoir.
Bonsoir.
Vous étiez professeur à l'INALCO, vous êtes à l'initiative de l'élaboration de ce MOOC. Alors peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez nous décrire à quoi ressemble graphiquement cette langue et dans quel cadre était-elle utilisée ?
Oui, écoutez, l'écriture Domba est de nature peu ou prou hiéroglyphique. C'est-à-dire qu'elle a des aspects parfois extrêmement figuratifs, c'est-à-dire que ça va presque au-delà du pictographique, mais il y a aussi des fonctions phonétiques, comme dans les hiéroglyphes, ce qui a permis à Champollion d'ailleurs, au bout d'un moment, de percer le secret de cette écriture. Voilà. Et quant aux fonctions initiales et actuelles d'ailleurs, elles sont le fait de Domba, on les appelle les Domba, ce sont des chamans, donc des gens qui sont des sortes de médiums entre les humains et les esprits, le surnaturel, et ce sont eux qui maîtrisent cette écriture. Ce qui m'amène à dire que comme ces Domba aujourd'hui, d'après nos informations, sont quelques centaines environ, Eh bien, ça veut dire que cette écriture, bien sûr, est menacée et qu'il convient de la protéger puisqu'elle a une originalité très forte parmi les écritures en usage aujourd'hui.
Mais c'est aussi une langue vivante, on la prononce ?
Alors la langue nassi, puisqu'on parle de la langue nassi et de l'écriture domba, la langue nassi est la langue d'un peuple de 300 000 habitants à peu près, donc dans le sud-ouest de la Chine, tout près du Tibet. Et donc cela se prononce. La relation entre l'écriture et la langue, pour ce qui concerne le domba et le nassi, n'est pas totalement immédiate comme notre alphabet. Mais globalement, bien sûr, elle note ce que l'on dit ou ce que l'on peut dire.
Vous disiez que c'est une langue qui est utilisée par les chamans. Est-ce à dire que c'est une langue qui est spirituelle ou religieuse ? Comment est-ce qu'on peut la définir ?
Ah oui, intégralement. Si vous voulez, il y a une sorte d'interpénétration entre l'écriture, la religion et la culture domba. Tout ceci s'interpénètre et les domba sont au cœur de tout ceci. Les domba, j'entends cette fois-ci, les chamans domba.
Ça veut dire que si on s'inscrit à ce MOOC pour apprendre cette langue, on apprend de fait aussi une partie de cette culture-là.
Alors dans ce MOOC, l'accent principal est mis sur la transmission d'une écriture d'une forte originalité, de nature hiéroglyphique, mais à la différence des hiéroglyphes, encore en vie aujourd'hui. Mais le deuxième volet, incontestablement, c'est toute la culture domba, y compris les croyances religieuses, les cérémonies, voilà, tous les aspects un peu de la culture de ce peuple.
Est-ce que vous pensez qu'un MOOC peut être une solution pour préserver une langue en disparition comme celle des domba ?
Alors, comme vous le savez, MOOC, le M de MOOC, ça veut dire massive en anglais, massif. C'est-à-dire qu'à la différence de l'enseignement à distance traditionnel, ce n'est pas quelques centaines, voire quelques tout petits milliers de personnes que l'on peut atteindre, mais quelques dizaines, voire quelques centaines de milliers, c'est tout à fait envisageable. Quelqu'un au sud de l'Amérique latine ou sur une île du Pacifique peut s'inscrire. De plus, c'est gratuit. Il peut s'inscrire à un MOOC et, d'une certaine manière, s'agissant de ce MOOC, peut contribuer à la préservation. Parce que si, au bout du compte, il reste quelques milliers, quelques dizaines de milliers d'apprenants à la fin de ce MOOC, je vous rappelle que cette écriture est maîtrisée par peut-être 450 personnes. Et donc, il y a une contribution de politique linguistique, de préservation d'un patrimoine en danger.
Alors, l'élaboration de ce MOOC, c'est un projet international. Il y a plusieurs universités qui ont travaillé dessus. Comment on parvient à travailler ensemble et comment on conçoit un MOOC pour apprendre une langue telle que le domba ?
Alors, un MOOC, comme tout ce qui relève du multimédia, ce n'est pas comme écrire un livre. C'est-à-dire qu'il faut nécessairement une collaboration, bien sûr, y compris avec le service technique. Alors, bien sûr, le premier acteur, c'est l'Institut des langues orientales, dont je relève. Avec le service TIS, le service technique de l'INALCO, il y a l'Université de Genève, une des auteurs principales de ce MOOC et de l'Université de Genève, c'est Mme Wang Zilas. Et il y a également l'Université des langues et cultures de Pékin, et parmi les auteurs, deux collaborateurs chinois, dont une nassi, spécialiste de la transmission de sa propre écriture. Et nous avons eu l'honneur d'obtenir récemment la reconnaissance de l'UNESCO, précisément pour ce dont je viens de parler, c'est-à-dire que le MOOC peut être un moyen de préserver un patrimoine en danger. Donc nous pouvons afficher le logo de l'UNESCO sur ce MOOC.
Est-ce que ce sont des cours ou des leçons accessibles à tous ou est-ce qu'il faut une base de connaissances particulières ?
Non, c'est un peu comme les hiéroglyphes. Comme vous le savez, les hiéroglyphes tentent encore aujourd'hui, notamment en Europe de l'Ouest, beaucoup de monde pour s'initier, y compris les enfants, y compris les enfants d'école primaire. Eh bien, s'agissant de la culture, parce que nous avons pris beaucoup de soin à rédiger ces notices culturelles, peut-être pas, il faut une certaine maturité culturelle, mais sinon l'apprentissage de cette écriture, je dirais de 7 à 77 ans, incontestablement.
Le MOOC Initiation à l'écriture domba commence le 24 avril, mais on peut s'inscrire ensuite après le début, n'est-ce pas, du début de ces sessions. Vous pouvez retrouver, chers auditeurs, sur la plateforme Université Numérique et c'est gratuit. Merci beaucoup, Joël Bellassène.
Et merci à vous, Marie Sambier. Comme chaque lundi, direction l'étranger, ce soir avec Angélique Bouin, notre correspondante à Bruxelles. Bonsoir Angélique.
Bonsoir Arnaud, bonsoir à tous.
Vous rentrez d'Amsterdam, aux Pays-Bas, où se propage une Vermeer mania.
Oui, c'est une exposition totalement exceptionnelle qui attire des dizaines de milliers de visiteurs, dont beaucoup de Français. Près d'un sur cinq visiteurs est français, nous dit-on. Expo exceptionnelle car jamais aucun musée n'a réuni autant de tableaux du maître néerlandais du XVIIe siècle, dont les toiles les plus connues, on le rappelle, sont La jeune fille à la perle ou bien La laitière. 28 œuvres sont exposées ici sur les 37 connues qui sont attribuées à Vermeer. C'est un artiste qui a très peu produit dans sa courte vie. Il est mort en 1675 à l'âge de 43 ans. Et puis, il peignait extrêmement lentement, m'a expliqué le guide du Rijksmuseum d'Amsterdam, qui a donc réussi l'exploit de réunir trois quarts de la collection mondiale.
Vous l'avez donc visité, Angélique, cette exposition, et vu La jeune fille à la perle, le joyau de Vermeer.
C'est vraiment un choc. La luminosité, les couleurs qui font la renommée de Vermeer sont vraiment éblouissante et on est totalement interpellé, attiré, subjugué par le regard en coin de la jeune adolescente. Autour d'elle, c'est aussi très amusant de voir les visiteurs se déplacer, se tordre pour contempler d'un angle à l'autre celle que l'on surnomme la Joconde du Nord. Petite anecdote, elle avait été achetée en 1881 pour l'équivalent d'un dollar par un collectionneur de peinture qui l'a léguée à sa mort au musée de La Haye. C'est donc ce tableau, on le sait, qui a fait en grande partie la renommée de Vermeer. Il a inspiré un roman, puis un film hollywoodien en 2003. Mais évidemment, ce sont les œuvres moins connues, moins accessibles qui nous permettent, dans cette exposition, de mieux cerner le peintre. Une grande majorité des toiles présentent des femmes dans leur vie de tous les jours. On les voit en train de lire, d'écrire, de jouer d'un instrument de musique, toujours avec cette luminosité exceptionnelle et un sens du détail tel que parfois, c'est l'effet en tout cas que cela fait avec la femme en bleu, qui est une femme enceinte, eh bien, on pourrait presque penser que son visage est une photo légèrement jaunie par le temps. C'est absolument remarquable.
Certaines toiles exposées, Angélique, ont été restaurées ou ont livré des secrets.
Oui, c'est le cas de La laitière, l'autre tableau très célèbre de Vermeer, cette femme qui verse du lait dans une vase, que son visage est baigné, comme dans tous les tableaux de Vermeer, par la lumière de la fenêtre. Lors de sa restauration par le Rijksmuseum d'Amsterdam, on a découvert dans les sous-couches, grâce à des procédés ultra-modernes, qu'il y avait une sorte d'étagère en bois pour suspendre des pichets derrière elle, et puis un panier posé au sol, des objets qui ont été ensuite recouverts par l'artiste pour, disent les experts, alléger sa composition. Alors le musée a décidé de laisser cette œuvre telle qu'elle, mais ce n'est pas le cas d'une autre toile où là, les restaurateurs ont décidé de montrer ce qui avait été camouflé pour le coup plusieurs dizaines d'années après la création du tableau. Cette œuvre, c'est la liseuse à sa fenêtre. Une femme lit une lettre debout face à la fenêtre de sa chambre. Sur le mur derrière elle, il y a un grand tableau avec un grand Cupidon qui avait donc disparu et qui a réapparu par la magie de cette technique de restauration et qui nous semble dire, ce Cupidon, que la lettre qui est lue est une lettre d'amour. Mais en fait, tout ici est sujet à interprétation. C'est aussi très amusant, je dois dire, de laisser traîner son micro près des visiteurs. Voilà un couple, par exemple, de Parisiens, la soixantaine, deux passionnés, mais pas experts de Vermeer, qui ont passé toute la visite à s'écharper aimablement et joyeusement sur l'interprétation de chaque tableau. Ils s'appellent Jean-Pierre et Jackie. On les retrouve devant une toile où il y a là aussi une jeune femme avec une lettre, en compagnie, cette fois, de sa servante.
Chaque tableau, on a commencé à débattre entre nous et même avec les visiteurs sur la signification des tableaux et on pourrait parler plusieurs heures. On hésiterait entre lire des commentaires brillants ou bien nous-mêmes réfléchir au tableau et voir comment nous l'interprétons. Et nous n'avons pas forcément les mêmes interprétations. Qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre ?
C'est probablement la première lettre d'amour qu'elle reçoit et la servante qui est une femme d'expérience forcément. Elle rigole, on a l'air de dire, bah oui, bien sûr, allez, ouvre-la, ta première lettre d'amour.
En fait, moi, je pense que je sais qui c'est l'expéditeur. La servante le sait.
Ah, mais là, alors voilà, ça, c'est une interprétation beaucoup. Là, tu imagines.
Oui.
Ah, voilà, un extrait, en effet, assez savoureux de ces échanges, mais ça a duré.
Oui, voilà un couple qui s'est dit tout au long de la visite ébloui, décontenancé aussi parfois par les choix du peintre, ces scènes assez simples de la vie domestique, ces femmes devant leurs fenêtres, les jeux de lumière de l'artiste qui nous obligent à regarder en fait d'abord là où il a décidé de nous emmener. On écoute encore Jackie et Jean-Pierre.
il y a quand même quelque chose qui me frappe énormément, c'est que Vermeer utilise les fenêtres pour la lumière, bien évidemment. C'est génialissime l'utilisation de la lumière. Et moi, en tant que femme du 21e siècle, je me dis, elles étaient très enfermées, très confinées, les femmes. Et forcément, leur regard vers l'extérieur, c'était la liberté, quoi. C'est évidemment, ce n'est pas le point de vue de Vermeer qui ne s'est servi exclusivement des fenêtres que pour la lumière.
Alors, bien sûr, j'aurais une interprétation légèrement différente parce qu'en même temps, il magnifie, il est centré sur la femme. Les hommes, à part le géographe, les hommes sont un peu anecdotiques, sont un peu secondaires. En revanche, on aurait beaucoup de lectures, d'autres niveaux de lecture non psychologiques. Par exemple, moi, je trouve incroyable qu'il arrivait à vendre ses tableaux qui étaient des tableaux que finalement des bourgeois de l'époque, il aimait bien voir le tableau de sa fille en train de jouer de l'épinette, quoi.
Voilà, le couple m'a quitté sans cesser de dialoguer. J'imagine que leur soirée a été animée. Il faut noter que le musée a bien fait les choses. La visite est plutôt aérée. Jamais plus d'une dizaine de personnes devant chaque toile. Les commentaires sur les murs sont un peu éloignés, mais ça évite l'effet grappe, justement, autour des tableaux. Très belle visite, évidemment, mais il fallait anticiper. Le succès est au rendez-vous. Les 200 000 premiers billets ont été vendus en un temps record, avant même l'ouverture de l'exposition mi-février. Les quelques 200 000 autres sont malheureusement déjà épuisés.
Ouais, alors, je ne sais pas si on doit vous remercier, Angélique Boulin, pour nous avoir donné envie. Cette exposition Vermeer au Rijksmuseum d'Amsterdam à voir, si on a déjà des billets, jusqu'au 4 juin prochain. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France. Émission préparée avec Aïssa Toundoy, Boris Pinault, Anouk Minaudier, Lucille Comeau, Marie Sorbier et Lise Ripoche.